Il faut à la fois être capable d'avoir le recul nécessaire, d'avoir la vision, de pouvoir construire le plan d'action et d'être également opérationnel pour pouvoir accompagner les équipes et les embarquer avec nous pour la réussite du projet.
Bienvenue sur Génération Management, le podcast dédié au décryptage des pratiques managériales. Je suis Louis Lafont, fondateur de Wanae, une application pour digitaliser les process de management. Je vous propose de rencontrer chaque mois des managers, consultants, coachs pour analyser ensemble les sujets du management à travers leurs expériences. Bonnes pratiques, difficultés, tendances de demain, c'est celles et ceux qui le pratiquent au quotidien qui en parlent le mieux. Alors bienvenue sur Génération Management, le podcast pour développer votre puissance managériale. Bonjour Vincent, je suis ravi de t'accueillir sur Génération Management. J'ai deux premières questions pour toi. Est-ce que ça va? Est-ce que tu pourrais te présenter?
Bonjour Louis, écoute, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis ravi. Rapidement pour me présenter, j'ai 54 ans, je suis manager de transition. J'interviens dans des fonctions de direction générale, direction des opérations ou direction commerciale dans des contextes de gestion de crise. Alors ça peut être très positif, hein, puisque la crise c'est toujours anxiogène. Ça peut être des crises de croissance dans des startups ou des crises de retournement, de restructuration dans des PME, ETI ou filiales de grands groupes.
D'accord. Et quel est ton parcours pour en arriver à manager de transition ?
Alors on entend souvent que chacun a son parcours particulier, mais par définition, ouais. Chacun de nous a son propre parcours. Moi j'ai préparé l'expertise comptable. J'ai travaillé en cabinet d'audit sur Paris et puis rapidement j'ai quitté cette profession parce que je voulais de l'opérationnel. Okay. Donc direction financière puis générale dans un groupe de parfums en production et en création de parfums. J'ai fait un exécutif MBA et puis plus récemment j'ai passé un certificat de management de transition à l'IFMT. Ainsi qu'une formation auprès de l'IHEGC, c'est-à-dire l'Institut des hautes études de gestion de crise.
D'accord, donc des formations spécialisées dans le management de transition.
Tout à fait.
Donc c'est effectivement le sujet du jour. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le management de transition et en quoi consiste ton métier ?
Alors le management de transition consiste à faire appel à un cadre expérimenté, le plus souvent surdimensionné pour une mission. Pour résoudre une problématique. Alors, j'aime bien parler de problématique, c'est toujours plus positif. On intervient dans trois grands domaines, soit l'intérim, le remplacement d'un cadre de niveau, ce qu'on appelle C-level, donc, c'est-à-dire posture COMEX, CODIR. Donc on remplace au pied de la lettre un dirigeant du COMEX, donc ça c'est la partie intérim. Une deuxième partie qui est la gestion de projet, donc la création d'une nouvelle usine, le développement d'un nouveau système de rémunération pour un DRH ou la mise en place d'un outil financier pour un... Donc ça, c'est la gestion de projet. Et puis la dernière partie, c'est le retournement et la restructuration. C'est-à-dire qu'en situation de crise, on fait appel à ces cadres expérimentés pour redresser une situation au sein d'une entreprise.
D'accord. Et donc c'est un métier qui est apparu dans les années 2000 en France, plutôt dans les années 70 aux Pays-Bas, Angleterre, États-Unis. Et est-ce que c'est un métier qui est en pleine croissance aujourd'hui ?
Alors, on a à toute crise, ça ouvre toujours des opportunités.
Ouais.
Donc aujourd'hui, la malheureuse crise sanitaire a entraîné un certain nombre d'opportunités, d'agilité, de besoin d'agilité, de réorganisation des contrats de travail, puisqu'on voit l'hybridation du contrat de travail entre le télétravail et le travail en office comme on le connaissait auparavant. Et aujourd'hui, le management de transition est de plus en plus en vogue, c'est de faire appel justement pour une mission ponctuelle, pour D'accord. une problématique donnée à un cadre afin de résoudre ces sujets. Deux éléments, effectivement, c'est venu des Pays-Bas, beaucoup plus développé en Angleterre et en Allemagne. En D'accord. Angleterre, pour une raison qui est simple, c'est beaucoup de missions dans le domaine public, chose qui n'existe pas aujourd'hui en France.
Okay.
En Allemagne, ce qu'on appelle le middle management, donc management intermédiaire, qui est en train de se développer aussi en France. Et puis en France, une profession qui devient de plus en plus visible et où il y a de plus en plus d'opportunités.
D'accord. Et donc une mission de management de transition, comment ça se déroule et quelles sont les grandes étapes ?
Alors, dans le monde, dans l'univers du management de transition, interviennent ce qu'on appelle les EMT, les entreprises de management de transition, qui font le lien entre un client qui est face à cette problématique et des managers expérimentés. Okay. Comment se déroule une mission ? On est appelé, alors c'est une caricature, je pousse un tout petit peu le sujet, mais on nous appelle le vendredi parce qu'on a été référencé auprès de ces cabinets, ces EMT. On nous appelle pour nous présenter la mission et on est mobilisable dès le lundi matin pour prendre ses fonctions parce qu'il y a très, très souvent des situations d'urgence
ouais.
À résoudre cette problématique. Prise de fonction, on a souvent entendu, et je pense que tu l'as entendu, la période dorée des 100 jours pour un nouveau ouais. gouvernement, pour un nouveau président. Un manager de transition a seulement 10 jours, à peine 10 jours, pour prendre son poste. Observer les relais qu'il va pouvoir avoir auprès de ses équipes pour mettre en place tout de suite un plan d'action. Alors un premier plan d'action avec ce qu'on appelle des quick wins, des résultats extrêmement rapides pour ouais. prendre en main sa mission. Moi, pour ma part, et nombre d'entre nous, on émet un rapport d'étonnement au bout d'une trentaine de jours, ce qui nous permet d'avoir une photo très précise de tout ce qu'on a découvert lors de cette prise de poste. Et puis, très rapidement derrière, la mise en place d'un plan d'action, validé donc par le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre, c'est l'actionnaire, c'est le fonds d'investissement, c'est le comité de direction ou le comité exécutif.
D'accord.
Donc, mise en place d'un plan d'action opérationnel.
D'accord, donc si je comprends bien, ça commence par un premier diagnostic, si on peut dire, de la situation, de comment ça se passe dans l'entreprise.
Tout à fait.
T'établis un plan d'action, et ensuite les actions, c'est toi qui les suis, ou alors c'est les équipes en interne qui sont chargées de les suivre ?
Alors, la posture du manager transition est très particulière. J'aime bien expliquer que c'est une posture d'architecte maçon. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être capable d'avoir le recul nécessaire, d'avoir la vision, de pouvoir construire le plan d'action et d'être également opérationnel pour pouvoir accompagner les équipes et les embarquer avec nous pour la réussite du projet.
D'accord. Et du coup, le donneur d'ordre, pourquoi est-ce qu'il fait appel à un manager de transition ? Est-ce que c'est le regard externe que le manager de transition a sur la situation ? Est-ce que c'est parce que il a peut-être plus d'expérience, de légitimité par rapport à ses autres missions et à son background. Voilà, quel est vraiment l'intérêt pour le donneur d'ordre de faire appel à un manager de transition ?
Alors régulièrement, lors de mes prises de poste, j'explique souvent la théorie d'Obélix. Et ça fait toujours sourire tout le monde. Obélix n'avait pas le droit à la potion magique parce qu'il est tombé dans la marmite. Et ouais. très souvent, les équipes sont dans l'opérationnel et sont dans le quotidien et n'ont plus cette capacité d'expertise et de recul par rapport aux événements.
Ouais.
Quand on fait appel à un manager transition, je le répète, souvent un manager expérimenté, surdimensionné pour cette mission. Et ça nous permet d'avoir justement, quand je parlais du rapport d'étonnement, cette vision nouvelle. Et on n'a pas d'enjeu, on n'a pas d'avenir. On ne nous proposera pas un CDI à la fin ou au cours de notre mission. Donc on est juste là pour résoudre cette problématique qui est sur notre feuille de route. Et cette vision extérieure nous permet d'analyser tout de suite les symptômes qui D'accord. posent problème au sein de l'entreprise.
D'accord. Et du coup, tu prends un lien hiérarchique avec les collaborateurs. Et comment c'est perçu en interne l'arrivée d'un manager de transition par les équipes opérationnelles plutôt ?
Alors, c'est extrêmement intéressant, et ça avec un petit peu d'expérience dans le management de transition. Il y a plusieurs temps Mais très souvent, sur la prise de poste, il y a toujours une grande partie des collaborateurs qui vous disent « Ah ben, on attendait quelqu'un d'extérieur, on attendait quelqu'un pour prendre en main le problème, puisque le problème n'a pas été réglé, la problématique D'accord. n'a pas été réglée. Moi, j'interviens régulièrement en situation de retournement. Le problème n'a pas été réglé. Donc, on attend quelqu'un. Donc, il y a cette espèce de temps, pas de sidération, mais en tout cas d'étonnement,
D'accord.
qui nous permet de prendre des actions très rapides. Au cours de la mission, après, c'est beaucoup d'humains, beaucoup de travail d'embarquer les équipes. Et moi, pour ma part, je fais souvent un petit dessin de voir quels sont les collaborateurs qui sont promoteurs de l'action ou qui sont détracteurs. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de la mission, les promoteurs du premier jour sont parfois les freins dans un deuxième temps, voire les détracteurs. Et les détracteurs du premier temps comprennent le sens de la mission et sont souvent d'excellents collaborateurs et relais et ambassadeurs des projets. Ouais. Donc c'est tout ça qui, autour du manager de transition, nous permet d'avancer et de structurer notre plan d'action.
D'accord, donc il y a quand même un côté pédagogique quand tu arrives pour expliquer ta mission aux collaborateurs et donner un peu de visibilité sur ce que tu vas faire.
Tout à fait, et puis de toute façon, il y a 80% de notre action, c'est de travailler avec l'humain, d'être en interaction. Moi, je travaille beaucoup sur l'intelligence collective, embarquer les équipes. Donc c'est des sujets qui sont importants de maîtriser.
D'accord. Et pour être un bon manager de transition, quelles sont les qualités qu'il faut avoir? Quelles sont les principales compétences?
Alors, toujours avec un clin d'œil, il faut être en bonne santé. Il faut être endurant parce que c'est un exercice qui n'est pas toujours facile. Il faut avoir du charisme, avoir du leadership. Il faut avoir la capacité de prendre une équipe du jour au lendemain avec à la fois de la fermeté mais de la souplesse parce qu'on ne fait pas bouger les équipes si on est trop ferme. Avoir du sang-froid parce qu'au cours des missions, les actions menées parfois entraînent des comportements parfois irrationnels. Avoir une grande capacité d'expertise pour pouvoir anticiper les réactions, analyser ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire des petites choses qui ne paraissent impalpables ou qui ne sont pas à relever, mais qui sont extrêmement importantes parce que c'est précurseur de situations de crise qui vont arriver derrière.
Les signaux faibles en termes d'attitude des collaborateurs ou au cours de la situation
ça peut être autant les collaborateurs que la perte d'un client, le lancement d'un produit qui a mal marché, une rupture sur une chaîne d'approvisionnement. C'est la cohérence, la cohésion des équipes qui est extrêmement importante à voir la pertinence de la capacité de travailler tous ensemble.
D'accord. Et donc tu parlais d'expertise, mais parce que toi, tu interviens sur des secteurs qui sont très divers. Tu n'as pas de secteur spécifique. Quelle est cette expertise dont tu parles? C'est plutôt en termes d'organisation générale, de process?
Alors, pour ma part, il y a plusieurs façons d'intervenir et il y a plusieurs métiers. Moi, j'interviens sur des situations où il y a des problèmes.
Oui.
Et donc, comme on est enregistré aujourd'hui, je vais m'arrêter à des problèmes, mais ce que j'aime bien, c'est les problèmes et trouver des solutions à ces problèmes. D'accord. C'est d'avoir des capacités d'analyser, de remettre en place une vision, d'analyser des domaines d'activité stratégiques et de développer cette mise en œuvre. Dans une situation de crise, il y a trois choses, on dit toujours trois choses, il y a trois choses à traiter en même temps. C'est résoudre la crise. Maintenir l'opérationnel, c'est-à-dire maintenir de la production, maintenir la facturation et la vente des produits auprès des clients, continuer à payer les fournisseurs. Donc ça, c'est la deuxième partie, l'opérationnel. Et la troisième partie, c'est la mise en place d'une solution qui va permettre de remplacer la crise et cet opérationnel et passer dans un temps de redéploiement et de retour à une activité bénéficiaire.
Ouais. Donc il y a un côté très pragmatique à trouver des solutions rapidement. Et par rapport au plan d'action que tu mets en place initialement, est-ce que tu es amené à être agile dans la résolution de problèmes ou tu essaies de tenir ce plan d'action que tu as mis en place dès le début?
Alors, C'est un métier d'équilibriste dans la mesure où toutes les actions qu'on va mettre en place vont entraîner d'autres interactions.
D'accord.
C'est-à-dire que quand on a une prise de poste, on va lancer des relais sur certains collaborateurs. Vu le rythme et les délais, on prend des actions avec certains collaborateurs qui ne seront pas forcément les collaborateurs sur lesquels on va s'appuyer dans un deuxième temps. Et la première vision qu'on a, c'est de mettre en mouvement. Moi, ce que j'explique souvent, c'est de leur dire on va déjà se lever et commencer à marcher, mettre les équipes en mouvement. Et une fois qu'elles seront en mouvement, il y aura beaucoup plus de facilité à affiner le raisonnement, puisque le plan d'action initial n'est jamais figé, il est adapté au fur et à mesure de la mission.
D'accord. Et en tant que manager de transition, est-ce qu'il y a un parcours type pour faire ce métier? Parce que c'est pas, enfin, il n'y a pas de formation, donc il y a peut-être des certifications, mais il n'y a pas de formation initiale. Quel est le parcours un peu type?
Alors, on
S'il y en
rigole
a
souvent entre nous, il y a le bon sens paysan, mais au-delà de
un.
ça, chacun de nous a quand même entre 20 et 30 ans, 30 années de management, de direction. Donc on
Ouais,
a quand
c'est
même
beaucoup
des
d'expérience.
managers qui sont d'expérience.
Ouais.
Aujourd'hui, il existe une association de filières qui s'appelle France Transition, qui regroupe les EMT, donc tous les cabinets qui travaillent dans ce milieu. Et il existe également l'IFMT qui dispense un certificat de manager de transition, que j'ai d'ailleurs passé, qui permet de travailler la posture, la prise de poste. Qui permet de travailler et de recevoir les outils nécessaires pour mener à bien cette mission. Au
D'accord.
jour d'aujourd'hui, on est environ 170 managers certifiés par l'IFMT sur un volume de 1500 managers qui interviennent régulièrement dans des missions de management de transition.
D'accord. Ah, donc il y a 1500 managers de transition en France
Environ,
environ.
enfin, c'est une estimation du marché,
D'accord.
1500 managers de transition qui vivent de ce métier, qui
D'accord.
font essentiellement ce métier de manager de transition. Ils n'ont pas, y a d'autres qui font de temps en temps des missions, plus des missions de coaching, de consultant,
Ouais.
etc., ou qui temporairement épousent cette fonction de manager de transition. Mais des managers de transition qui en ont fait leur métier et qui travaillent dans le temps, il y en a environ 1500.
D'accord. Et donc si on parle un peu de la plus-value d'un manager de transition, pour toi, qu'est-ce qu'apporte le manager de transition aux entreprises?
Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'expérience,
Ouais.
la prise de fonction, la problématique à résoudre. Il n'est pas envisageable pour un manager de transition de ne pas réussir sa mission, sinon il n'y aura plus de mission derrière. Donc, c'est l'assurance également pour le donneur d'ordre de régler la problématique qui est donnée, que ce soit le remplacement d'un cadre, comme je disais, la mise en place d'un projet, du retournement à la restructuration. C'est de faire appel à quelqu'un qui n'a pas de posture, pas d'avenir dans l'entreprise, qui est là pour traiter le symptôme, le problème, et qui quittera l'entreprise dès que cette problématique est résolue.
D'accord. Et est-ce qu'il y a un côté où on fait appel à toi, au manager de transition, pour prendre des décisions pardon, difficiles que le PDG ou les cadres ne prendront pas?
Alors, je vais essayer de reformuler. Définitivement, dans le management de transition, c'est parfois c'est la capacité pour le donneur d'ordre, enfin la possibilité pour le donneur d'ordre de faire appel à un cadre qui va résoudre ce problème. Effectivement, s'il y a des restructurations, il y a certaines actions à mener au sein de l'entreprise qui peuvent être difficiles à prendre. Le manager de transition vient, règle les problèmes. Une fois qu'il a réglé ses problèmes, il s'en va. Et on laisse une situation relativement propre, enfin plus que propre, puisque c'est le manager qui a traité cette problématique.
Ok, donc il y a aussi un enjeu de transfert de compétences du manager de transition au manager, au futur manager.
Définitivement, c'est-à-dire que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on intervient donc dans ces situations parfois de crise. Mais l'objectif surtout, c'est que quand le manager de transition repart, la crise est réglée, les process, les mises en place et la réorganisation du projet doit être pérenne, parce que sinon on est obligé de faire appel à vitam aeternam à un manager transition. L'option d'avoir fait appel à un manager transition, c'est transitoire comme transition, ça a la même racine. Et lorsqu'on s'en va, il faut qu'il y ait une pérennité dans les décisions qui ont été prises. Donc il y a toute la subtilité de prendre ces décisions et que les équipes continuent à faire vivre les décisions qui ont été prises.
D'accord. Et est-ce que tu, enfin, quelles difficultés rencontres-tu, si tu en rencontres, dans ton métier ?
Les difficultés, il y en a tous les jours, mais c'est un métier qui est délicat, c'est un métier qui est d'engagement, c'est un métier passionnant. Donc voilà, il y a beaucoup d'humains, il y a des rencontres, il y a beaucoup d'émotions, parce que quand on traverse des situations tendues, je dis souvent que on vit et on dort avec les équipes, donc il y a des liens qui sont très très forts. Il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, mais je pense qu'il faut aussi avoir du courage managérial et que le manager de transition, par définition, doit avoir cette posture de savoir prendre les bonnes décisions, voilà, de les expliquer, de les accompagner pour avoir la juste décision.
D'accord. Et donc, pour finir ce podcast, j'aime bien demander à la fin si tu aurais une recommandation de livre ou de contenu pour nos auditeurs.
Alors, écoute, avec grand plaisir. Je vais non pas répondre à ta question, mais je vais faire une recommandation de deux livres.
Encore mieux.
Voilà, donc c'est juste une petite digression. Deux livres qui m'ont passionné, c'est le livre d'Arnaud Marion, qui a été le redresseur des salles Pleyel, de Vélib ou des Poulets Doux, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Partout où je passe les mêmes erreurs, et qui fait justement état de son parcours de redresseur d'entreprise. Et puis un autre aussi très intéressant de Nicolas Doucin, qui est à la tête d'une EMT et qui a écrit un livre qui s'appelle « Ma petite entreprise a encore connu la crise », où il fait part de son parcours d'entrepreneur. Voilà, c'est deux livres extrêmement intéressants qui montrent justement toute l'envers du décor, les difficultés. C'est très bien écrit, c'est deux personnes que j'apprécie, qui sont des amis, donc c'est d'autant plus agréable de partager, de recommander leur livre.
Super, bah écoute, c'est noté. On arrive à la fin, je te remercie Vincent pour cet échange très intéressant.
Eh bien écoute Louis, j'étais ravi de partager ça et à très bientôt.
Ouais, c'était un plaisir, merci, à bientôt.
Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Management, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à suivre le podcast Génération Management et le noter. À très vite pour de nouveaux épisodes.